Foi et tradition des chrétiens orientaux, une émission proposée par Sébastien Le Courtois.
Bonjour, ce matin au micro de France Culture, nous allons retourner au lycée en compagnie du professeur Pablo Kirchuk, qui enseigne depuis un an l'araméen moderne dans les classes du lycée Jean-Jacques Rousseau de Sarcelles. Bonjour.
Bonjour.
Alors, ce sont plusieurs étudiants qui ont choisi cette option et qui, en plus de leurs cours réguliers, consacrent du temps à cette langue longtemps considérée comme morte et présentée aussi souvent comme la langue de Jésus. Nous avons déjà eu l'occasion d'aborder la question du monde araméen, du monde syriaque, mais à chaque fois pour parler d'époque reculée. Ce matin, c'est bien de présent dont il s'agit. Je suis avec Semiramis Id,
bonjour.
Française d'origine assyro-chaldéenne, précisément du sud-est de la Turquie, d'une région qui s'appelle le Hakkari occidental, pour être très précis, et locutrice en famille de cette langue araméenne. Vous allez nous expliquer ce qui a motivé tous les deux cette décision d'organiser des cours, surtout à qui s'adresse-t-il, mais je vais commencer avec vous, Pablo, pour savoir un petit peu votre intérêt pour cette langue araméenne, finalement. Comment en êtes-vous arrivé là ?
Écoutez, il se trouve que j'ai fait mes études universitaires en Israël. Hormis la thèse que j'ai faite ici, mais en tout cas, quand je faisais des études des linguistiques hébraïques et sémitiques, j'ai fréquenté entre autres l'araméen classique, disons l'araméen biblique, puis l'araméen talmudique. Et nous avions aussi des cours d'araméen moderne, que l'on appelle sous différentes appellations, sourette ou autre. Mais en tout cas, il se trouve que c'est une langue proche de l'hébreu, qui a une très longue histoire documentée, c'est-à-dire nous avons des documents qui remontent jusqu'à, disons, 3000 ans en arrière. Il n'y a pas eu de discontinuité, et donc à ce titre, l'araméen est une langue très intéressante du point de vue linguistique. Et puis, bon, il se trouve que je suis professeur agrégé au lycée de Sarcelles, Jean-Jacques Rousseau, et que donc je proposais au proviseur M. Bonneville, étant donné qu'il y a un nombre important d'élèves de chaldéens, assyro-chaldéens au lycée.
Donc qui ont cette langue déjà en famille. On reviendra avec Semiramis sur cette question.
C'est ça, qui ont cette langue en famille. Je proposais de leur offrir la possibilité de parfaire leur connaissance au niveau de la grammaire, au niveau de la parenté sémitique, la parenté même avec d'autres stades de l'araméen, des stades plus anciens. Et le proviseur a accepté avec joie, et je force de constater qu'un nombre assez important d'élèves se sont inscrits, plusieurs dizaines d'élèves, alors que ce n'est même pas une option au bac. Donc ça veut dire que leur intérêt purement, je dirais, intellectuel et même affectif.
Culturel.
Mais c'est la langue qu'ils ressentent comme leur langue maternelle. C'est la langue qu'ils parlent à la maison. C'est la langue qu'ils voudront un jour léguer à leurs enfants. Et donc, ils m'ont fait l'honneur de s'inscrire à mes cours. Alors, il est évident qu'ils parlent la langue mieux que moi, puisqu'ils la parlent depuis la naissance pratiquement, depuis tout petit. Et alors que moi, je l'ai acquise, n'est-ce pas ? Bon. Mais le linguiste peut apporter au locuteur des connaissances que le locuteur n'a pas.
Grammaire, par exemple.
La grammaire, comment l'araméen moderne a acquis des structures grammaticales que l'araméen ancien ne possédait pas, vous voyez ? Et puis, quels sont les rapports entre justement des stades plus anciens et le stade actuel ? Puis, quels sont aussi les rapports dans l'espace ? Y a-t-il un seul dialecte ou y en a-t-il plusieurs, actuellement et aussi anciennement ? Eh bien, non. Donc, et puis, je pense qu'un autre élément que j'apporte, c'est le suivant. Je crois que dans la pensée, ou disons pour ces élèves, l'étude de l'araméen ne peut se faire dans leur communauté que dans un cadre religieux, alors que chrétien, alors que moi je propose un cadre tout à fait autre, qui est le cadre de la République. C'est une langue comme une autre, c'est une langue parlée, c'est une langue, n'est-ce pas, avec laquelle on peut communiquer de tout ce qu'on veut. Et c'est une langue qui n'est pas uniquement parlée par les chrétiens. Les juifs que je suis ont étudié les dialectes juifs de cette langue, qui sont je dirais, étonnamment proche des dialectes chrétiens, n'est-ce pas ? C'est la même langue, il n'y a rien à dire.
Alors avant de revenir en Mésopotamie, justement, pour savoir où on parle encore ce dialecte autre qu'à Sarcelles, je me tourne vers vous, Sémiramis, maintenant. On est dans la rentrée des classes et pour bientôt, donc on a parlé d'une dizaine, un peu plus d'étudiants. Qu'est-ce qui justifie pour vous l'enseignement de l'araméen moderne ?
Bien écoutez, l'araméen moderne, pour nous, on la considère comme une langue qui est en danger, en fait. Et d'ailleurs, c'est un aspect qui est reconnu par l'UNESCO. Donc le sourète est reconnu comme une langue en danger, en voie de disparition.
Donc il faut préciser, le sourète, hein, c'est
oui,
cette langue, voilà, c'est le nom
voilà.
de cette langue.
Et donc, on sait que la majorité des assyro-chaldéens ou des locuteurs sont à l'extérieur du Moyen-Orient. Et donc, il y a un risque pour nous. Enfin, c'est ce que l'on ressent, il y a un risque pour nous que notre langue disparaisse. Et ça, on le voit tous les jours au sein de notre foyer, en fait. Puisque moi, je parle avec mes parents en sourète ou avec mes grands-parents, mais entre frères et sœurs, on parle en français. Mais mes neveux, c'est bien pire. Mes neveux...
Une génération...
Voilà, c'est-à-dire les enfants
de mes sœurs. Petite génération en dessous de vous, parce que vous êtes quand même
voilà.
Bien jeune.
Les enfants de mes sœurs, on leur parle en sourète, mais ils nous répondent en français. Ou sinon, des fois, ils nous formulent des phrases, le début est en sourète et la fin est en français. Donc je peux vous donner un exemple. Par exemple, ma nièce qui appelle ma mère et qui lui dit « Daye yemimera te où ?» Ça veut dire « ma mère te demande où t'es ». Donc il y a un vrai
Donc
problème.
Pour éviter ce charabia à venir pour les générations à venir, il faut les envoyer au lycée. Alors ce sont des jeunes gens qui ont quel âge à peu près ? C'est quelle classe qui reçoit ces cours ?
Alors ici en fait ce sont des élèves de seconde à terminale. Voilà. Et puis il y a aussi à l'INALCO, on peut suivre...
Parce que vous n'avez pas d'autres moyens, en fait, d'apprendre textuellement cette...
Non, alors moi, je l'ai appris quand j'étais petite, parce qu'il y avait des associations qui étaient dynamiques à cette époque-là, on l'a apprise, mais on apprenait juste à lire et à écrire, pas forcément à comprendre les formulations, les formulations de politesse, par exemple, etc., ou les expressions. On apprenait juste à lire et à écrire et à connaître l'alphabet. Ensuite, ça s'est arrêté. Et maintenant, on l'enseigne seulement à l'église, mais c'est très limité à l'église. Et d'après ce que ma nièce encore me dit, elle me dit qu'en fait, elle apprend assez mal, en fait.
Alors, il faudrait peut-être préciser qu'il y a le syriaque classique,
voilà.
Qui est la langue de la liturgie, alors là, qui a son propre alphabet.
Exactement.
Mais vous, il s'agit plutôt d'une langue vernaculaire, dialectale, en fait.
Voilà.
Et qui s'écrit avec quel alphabet ?
Un alphabet, ça, Pablo peut nous le dire. Enfin, c'est un alphabet récent, en fait, qui a évolué. C'est l'alphabet du sourète.
Alors voilà, c'est un alphabet qui est dérivé, si vous voulez, ou qui est basé sur l'alphabet syriaque, naturellement. Qui est un petit peu différent, d'accord, mais qui ne présente pas des différences majeures. L'alphabet, donc c'est un alphabet qui a comme la plupart des alphabets du monde, on peut dire, est un dérivé de l'alphabet phénicien, n'est-ce pas ? C'est un alphabet qui s'écrit de droite à gauche comme l'alphabet hébreu, comme l'alphabet arabe. Et où on écrit les consonnes, on n'écrit pas nécessairement les voyelles, on écrit les voyelles longues. Enfin, c'est un alphabet sémitique très, très classique dans sa conception. Et puis, nous employons donc cet alphabet-là en cours, naturellement. Mais si je peux, disons, enchaîner sur ce que vient de dire Sémiramis, nous ne nous limitons pas à la lecture et l'écriture. Nous suscitons de la parole réelle, j'allais dire, de la parole quotidienne, d'accord. Et si je puis ajouter, du point de vue de la linguistique générale, le processus que vient d'écrire Sémiramis est un processus typique, absolument classique, et lors d'un processus d'immigration.
Expliquez-nous justement cette question.
Voilà. Alors, la génération qui elle-même a fait l'acte d'immigration continue à parler sa langue maternelle. D'accord,
c'est donc clair. Là, c'est la génération des grands-parents de Sémiramis, par exemple.
Des grands-parents, voire des parents, voilà. Maintenant, la génération qui va naître sur les nouveaux lieux va avoir cette langue comme langue maternelle, puisque c'est la langue de la mère et du père, mais et elle aura une autre langue comme langue, disons, quotidienne, langue vernaculaire de communication avec, avec le monde extérieur. D'accord. Donc, cette génération-là aura une bonne maîtrise de la langue, disons, ancestrale, mais elle ne l'utilisera pas autant que la génération précédente. Et quant à la troisième génération, alors sa maîtrise de la langue ancestrale sera tout à fait passive et elle ne communiquera que dans la langue du nouveau pays. Ça, c'est un processus qui est, j'allais dire, universel.
Alors, donc finalement, on perd la langue maternelle en trois générations.
Voilà, en trois générations, on la perd, et puis elle s'est réduite un pot de chagrin, et puis on l'utilise, on retombe, j'allais dire, sur la langue liturgique, et qui est à tous égards une langue figée, n'est-ce pas, qui n'évolue pas, et qui n'est pas la langue maternelle d'une population, et qui n'est pas la langue de communication. Et d'une population. Et donc, voilà, c'est ces processus-là qu'on voudrait éviter pour que Semiramis et sa génération elles puissent communiquer avec aisance avec leurs propres enfants le jour venu, et ainsi de suite. C'est-à-dire pour perpétuer une langue qui n'est pas seulement une grande langue de culture comme l'araméen, et, ou qu'on peut être l'hébreu, ou d'autres langues qui ont une existence très ancienne, mais qui s'utilisent jusqu'à maintenant, n'est-ce pas ? Mais aussi en tant qu'une, je dirais, une nuance supplémentaire dans la grande palette des langues humaines. Car nous avons, disons, 6000 langues qui séparent dans le monde, d'accord ? La moitié sont en danger, n'est-ce pas ? Et nous n'aimerions pas que ces langues disparaissent, quelles qu'elles soient, parce que chaque langue représente une manière particulière de voir, de construire, j'allais dire, le monde, une manière particulier de le dire, une manière particulière de communiquer. Et il n'y a aucune raison que cette richesse humaine vienne à disparaître.
Je vous rappelle que vous êtes sur France Culture et ce matin nous parlons de l'enseignement de l'araméen moderne dans un lycée de la région parisienne et nous sommes précisément à Sarcelles. Alors Semiramis Hid, je me tourne vers vous à nouveau pour nous dire un petit peu combien de personnes sont susceptibles d'être concernées par cet enseignement. Donc on est à Sarcelles, pourquoi d'ailleurs ? Parce qu'il y a beaucoup de communautés assyro-chaldéennes.
On dit qu'à Sarcelles, il y a à peu près 12 000 assyro-chaldéens essentiellement installés dans le Val d'Oise, 12 000, pardon, essentiellement installés à Sarcelles et dans les villes environnantes.
Donc ce lycée Jean-Jacques Rousseau est au centre
voilà,
de...
Exactement. Et d'ailleurs, ces élèves, la plupart habitent à Sarcelles, mais d'autres habitent dans les villes voisines, telles que Villeurbanne ou Gonesse. Ils se déplacent spécialement pour ce cours.
Alors, est-ce que les parents sont contents de voir leurs enfants apprendre cette langue ou ils trouvent qu'ils se disent « mais à quoi ça sert de perdre son temps pour ça ?»
Je dirais pas qu'ils pensent que... Enfin, ils sont contents. Mais par exemple, quand j'en parle à ma mère, elle dit « ah oui, c'est bien, mais sans plus ».
Donc c'est vraiment votre génération
voilà,
qui a...
Voilà, nous, en fait, on est soucieux de préserver cette langue puisqu'il ne nous reste que ça. On n'a plus de terre. Nos parents sont venus ici en tant que réfugiés politiques, exilés. On n'a plus de terre et donc il ne nous reste que ça, en fait. C'est notre seule manière de préserver notre culture. Parce qu'on dit souvent que la langue, c'est aussi la transmission de la culture. Bah, pour nous, on le considère encore plus parce qu'on n'a plus de terre. Donc c'est pour ça qu'on tient à cette langue-là.
Et vous en parlez avec vos amis du même âge que vous, de ce genre de débat
Oui, ils comprennent. Et quand je leur dis que, par exemple, mon père, il nous engueulait quand on était petite parce qu'on parlait en français entre frères et sœurs, ils ne comprenaient pas. Et puis je leur ai dit, parce qu'en fait, il ne nous reste que ça. Eux, ils sont partis de là-bas. Et en plus, dans leur pays, l'araméen n'était même pas reconnu. Il n'est même pas enseigné, il n'est pas...
Alors ça peut être la Turquie, ça peut être l'Irak, voilà. Ça peut être la Syrie.
Et surtout en Turquie, il n'y a pas...
Surtout la Turquie, voilà. Alors maintenant, nous allons plonger un petit peu plus dans la géographie des origines pour bien comprendre de ce dont on parle. Alors Pablo, je me tourne vers vous. Me semble-t-il, moi j'étais allé une fois en Israël, à côté de Jérusalem, et j'avais vu, alors vous allez me dire si je ne me trompe pas, mais des gens qui parlaient le sourate, donc cette langue-là, et qui venaient du nord de l'Irak. Donc, ce qui veut dire que c'était une langue qui était parlée par des communautés qui n'étaient pas chrétiennes aussi ?
Oui, oui, absolument. Alors,
là, c'est la Mésopotamie.
Oui, donc, absolument. Donc, l'araméen a la particularité d'être parlé de nos jours, mais aussi tout au long de son histoire, je dirais, par des populations aussi bien juives que chrétiennes. C'est-à-dire que nous avons dans la... Si vous voulez, dans les livres de la Genèse, nous avons deux mots en araméen, ce sont les deux mots les plus anciennement attestés, pratiquement, où Laban et Jacob établissent un pacte. Eh bien, Laban appelle les monuments qu'ils construisent pour attester de ce pacte. Yegar Saduta, ce sont deux mots araméens qui signifient monument de témoignage. Et Jacob l'appelle en hébreu Galed, qui veut dire exactement la même chose. Et donc, nous savons que, et l'araméen s'est parlé déjà à l'époque, à savoir... Et, disons, au XVIIIe siècle, avant l'ère commune, il y a pas loin des 4000 ans en arrière. Ensuite...
Mais sur l'araméen moderne, précisément,
alors, sur
ce dialecte.
Alors, sur l'araméen moderne, c'est le même, c'est-à-dire les Juifs parlent surtout le dialecte, enfin, entre autres, un dialecte de la ville de Zacho, n'est-ce pas? Et les chrétiens parlent de dialectes qui sont concentrés autour de la ville de Mossoul, en Irak, ou en Turquie, Akkari, etc.
Al-Kosh, peut-être?
Al-Kosh, exactement. Al-Kosh, nous avons un grand prophète qui s'appelait Nahum, un prophète juif qui est consigné dans la Bible, et qui était de là, n'est-ce pas?
Et qui donc, est au nord de l'Irak.
Qui est au nord de l'Irak. Et donc, il y a dans l'Azerbaïdjan persan en Iran, il y a un dialecte où l'on voit une différence grammaticale entre les parler des juifs et les parler des chrétiens. Bon, qui concerne disons, la différence entre verbe transitif et intransitif, mais c'est évidemment la même langue et il y a intercompréhension. Un des grands spécialistes actuels de l'araméen, y compris le sourette, n'est-ce pas, est Chezi Moutsafi, un professeur à l'Université de Tel Aviv. Et donc, c'est une langue, en effet, qui est commune à une population chrétienne, à une population juive. La population chrétienne étant plus nombreuse actuellement, puisqu'on décompte à peu près 500 000 locuteurs qui sont, disons, distribués entre la France, la Suède, les États-Unis et l'Australie.
500 000, un demi-million
voilà.
Du sourette.
Du sourette. Et puis, les juifs sont concernés, comme vous dites, en Israël. Et à Jérusalem, il y a des quartiers à Jérusalem où on parle cette langue, ainsi qu'à Kiryat Malachi et à d'autres endroits. Donc, c'est en effet une langue qui est interconfessionnelle. Une particularité est que les populations, disons, islamisées du Kurdistan parlent, ne la parlent pas. Ils parlent des langues indo-iraniennes comme les Kurdes ou d'autres langues, ou alors les Turcs carrément en Turquie. Voilà. Alors, pour revenir à un point très important que Semiramis a évoqué, si vous permettez.
Je vous en prie.
Elle a dit qu'en Irak et en Turquie, cette langue, l'araméen n'est pas reconnue. Là, c'est un point pour moi crucial. Je crois que la reconnaissance est vraiment essentielle. C'est-à-dire, le fait qu'un cours d'araméen moderne soit proposé en lycée, ça veut dire que la République, par ma modeste personne, et je ne suis qu'un modeste, n'est-ce pas, professeur à cet égard, chercheur, linguiste, tout ce que vous voulez, mais je ne fais que, comment dirais-je, transmettre ce que la République française propose. Cela veut dire que la République reconnaît ces communautés dans leur spécificité. Et je crois que ça, c'est très important, c'est extrêmement positif, parce que la reconnaissance, au sens d'acceptation, et engendre la reconnaissance au sens de gratitude. C'est-à-dire que Semiramis et les membres de sa communauté se sentent reconnus et en tant que tels, ils voudront encore plus donner le meilleur d'eux-mêmes à la société qui les reconnaît comme ayant une spécificité. Et donc, je crois que au-delà même de l'aspect scientifique, linguistique, historique, culturel, c'est un aspect qui est très important du point de vue de la société dans laquelle nous vivons. Et peut-être que c'est un exemple qu'on pourrait appliquer à d'autres langues très minoritaires.
Et est-ce que vous pensez que d'autres institutions, d'autres lycées pourraient être susceptibles d'accepter ce principe? Est-ce que ça se justifie ailleurs?
Alors, je crois qu'il faut garder l'essence des proportions. C'est-à-dire, comme Semiramis a dit, nous avons dans le Val d'Oise entre 12 000 et 20 000 locuteurs d'araméen, de sourette. il serait peut-être, comment dirais-je, déplacé de le proposer dans d'autres lieux, d'autant que il se trouve, j'espère qu'un jour l'un de ses élèves deviendra professeur, mais pour le moment c'est moi qui assure, et comme j'ai d'autres charges, je suis agrégé d'hébreu à la base, et puis j'ai des charges de recherche, etc., ça serait un petit peu, mais je crois que ça serait des trop. Au contraire, notre but est de concentrer le plus grand nombre d'élèves possible au lycée Jean-Jacques Rousseau, qui, par la volonté de son proviseur, M. Bonneville, a bien voulu, disons, proposer cet enseignement. Et à partir de là, bien entendu, nous espérons former des spécialistes. Et il se trouve que j'enseigne aussi à l'Institut des langues orientales, langues des civilisations orientales.
À l'INALCO.
L'INALCO, voilà, les langues orientales, comme on dit communément. Et j'ai l'honneur d'avoir Semiramis comme étudiante, puis d'autres personnes. Et donc, nous voulons que cela devienne un enseignement pérenne, aussi bien au niveau du lycée qu'au niveau universitaire. Si vous permettez, je vais quand même mentionner mon assistant Joseph Alichoran, qui est locuteur de cette langue et m'assiste au Langso, à l'INALCO, puisqu'il la parle, j'allais dire, vraiment, n'est-ce pas ? C'est sa langue, c'est la langue maternelle. Et je vais aussi citer le professeur Bruno Poisat, qui est le fondateur, j'allais dire, des études de l'araméen moderne du sourd en France. D'accord ? Et c'est lui qui m'a demandé de prendre sa succession lorsqu'il a pris sa retraite il y a peu de temps.
Mais vous êtes, j'ai l'impression que vous décrivez une équipe de pionniers finalement, parce que vous êtes parti à l'assaut des institutions avec vos livres et votre volonté, et vous, Semiramis, avec vos souvenirs et cette identité que vous portez en bagage. Qu'est-ce que ça vous, par rapport à ce qu'a dit Pablo, quelle est votre impression ? Est-ce que ça vous vous sentez plus à l'aise dans d'être reconnu de cette manière-là par un lycée, par exemple ?
Bah oui, justement, puisque quand on en parle avec mes amis, que je leur dis que je parle araméen, ils sont étonnés de voir que ça se parle encore.
Oui, c'est pas une langue morte.
Voilà, c'est pas une langue morte.
C'est pas comme le latin.
Et donc là, justement, enfin, il y a eu des reportages. Il y a eu un reportage de France 3.
Ah bah, vous avez une presse superbe. Hein.
Et là, ça a été une vraie fierté de voir à la télévision que des journalistes disaient « Oui, pour la première fois en France, il y a un cours d'araméen qui est proposé dans un lycée public. » Et ça a été une vraie fierté pour nous tous, qu'on soit reconnus. Enfin,
bah, le côté public est important, voilà. On est sur une radio de service public ici aussi. On continue un petit peu cette mission. Pablo ?
Oui, alors d'abord vous avez tout à fait raison et nous sommes très contents de participer à une émission de service public et à continuer ainsi notre mission qui s'est faite dans l'établissement public, que ce soit les Langso ou le lycée. Maintenant, un petit point que j'aimerais relever, vous avez dit il ne s'agit pas de latin. Eh bien il faut, c'est vrai naturellement, c'est vrai, c'est une langue qui se parle, mais il faut quand même, comment dirais-je, dire que l'araméen moderne n'est pas identique à l'araméen ancien, il a évolué, et donc il a évolué peut-être autant que le français a évolué par rapport au latin, justement. Alors donc on peut se poser la question si nous ne sommes
mais
pas...
Mais j'ai regretté de le dire, en fait, oui. Parce que le latin est parlé au Vatican, toujours.
Oui, mais enfin, ce n'est pas... Le latin qui est parlé au Vatican, naturellement, est plus proche du latin de Cicéron que n'est l'araméen du Talmud, de la Gemara, etc., ou du livre de Daniel,
par
exemple.
Vous voulez dire que le sourette que vous enseignez, oui. C'est une langue qui a beaucoup évolué depuis les origines.
Alors, les sourettes a beaucoup évolué, et sous l'influence du kurde, notamment des langues indo-iraniennes, et donc il y a, disons, plusieurs points que l'on peut évoquer sans aller trop loin dans la spécialisation. Les systèmes verbaux du sourette, une partie du système verbal du sourette est complètement différente de celle que nous avons dans les langues sémitiques classiques, y compris l'araméen classique. C'est un système qui se rapproche un peu du système que l'on appelle ergatif, c'est-à-dire où l'agent n'est pas le sujet de la phrase, pour aller vite. D'accord ? Ensuite, nous avons en araméen moderne, naturellement, une agglutination de l'article défini à tous les noms.
Donc des influences, disons, des langues majoritaires parlées
bien
dans la
sûr,
région.
Bien sûr, exactement, exactement. Et là aussi, c'est un processus linguistique absolument universel, que des langues parlées par des minorités qui sont bilingues, n'est-ce pas ? Parce qu'elles parlent aussi la langue majoritaire. Eh bien, elles finissent par être influencées dans leur grammaire. Ceci dit, lorsqu'on regarde un texte araméen moderne, on voit tout de suite que c'est de l'araméen. Il n'y a pas de doute. les racines sont sémitiques, les mots ont une apparence sémitique indubitable, et la proximité avec l'hébreu est absolument étonnante. J'ai vous ai apporté ici une petite grammaire.
Ah oui, je vois. Voilà. Dialecte d'Urmia.
Absolument.
Alors, il faudra revenir pour une autre émission.
Oui,
voilà, c'est la partie iranienne.
je suis
confus, mais on doit malheureusement s'arrêter là. Pablo Kirchouk, je vous remercie infiniment. Semir Hamisid aussi d'être venu jusqu'à nous en ce dimanche matin. Émission que vous pouvez retrouver sur le site internet de France Culture. Je remercie à la technique Catherine Dereté, à la réalisation de cette émission, Dany Journeau. Et nous retrouvons le service protestant.